I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Riolet, tiramisu, riz de veau.
Un riz de veau ?
En quoi ?
Le riz de veau en dessert, revisité par Adrien Cachot, je veux bien me laisser tenter. C'est vrai que ces jeunes chefs ont du talent à revendre et cette célèbre marque de livraison de repas ne s'y est pas trompée avec une série de spots publicitaires diffusés juste avant la célèbre émission culinaire de M6 avec dans ce spot 4 chefs pour le prix, non, sans doute pas pour le prix d'un. Adrien, Mallory, Diego et Maury, 4 anciens candidats qui ont crevé l'écran. Une aubaine pour les marques en quête de personnalité pour mitonner leur notoriété.
Quoi, c'est trop piquant pour toi, gros ?
Ouais, mais moi j'abandonne jamais.
Ah oui, c'est plus drôle ça, hein ?
Et il quitte encore le plateau.
Top Chef reprend avec Uber Eats.
Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des Échos. Chaque jour, la brigade du journal se mobilise pour apprêter, assaisonner et braiser un sujet de l'actualité. Vous l'avez déjà compris, on va parler de la façon dont les marques accommodent de plus en plus les nouvelles et anciennes gloires de la cuisine.
Let's order off. Ta-da ! Que je...
T'as dit quoi ?
Bon appétit.
Ils n'en sont pas encore à détrôner l'indétrônable JJG dans le top 50 JDD des personnalités préférées des Français, mais ils progressent. Dans le classement 2020, Philippe Etchebest apparaît à la 7e place chez les hommes et Cyril Lignac à la 14e place, mieux placé que Jean Dujardin, Kylian Mbappé ou Stéphane Bern. Après, c'est vrai, on en vient à se demander s'ils ne sont pas devenus des animateurs télé avant d'être des cuisiniers, mais cela montre bien le poids pris dans l'espace public par ces nouvelles stars des fourchettes et des flambadoux. Sur Twitter, Paul Bocuse, Pierre Gagnaire ou Guillaume Gomez attirent des centaines de milliers d'abonnés, alors que sur Instagram, les Français n'ont Dieu que pour Cédric Grolet, Pierre Hermé, Anne-Sophie Pic ou Jean-François Piège. Certains affichent même plus d'un demi-million d'abonnés, de vrais influenceurs. Bonjour Laurent Guèze.
Bonjour Pierrick Fay.
Spécialiste des restaurants et restaurateurs aux Échos, vous revivez depuis la fin du confinement et dans le cadre d'un numéro des Échos Week-end consacré à la gastronomie et à la cuisine il y a quelques semaines, vous vous êtes penché sur les étoiles tricolores dont les Français sont de plus en plus toqués. C'est quelque chose que vous avez constaté dans votre entourage. On s'intéresse de plus en plus à ces têtes couronnées d'une toque.
Oui, alors la France, c'est pas d'aujourd'hui que c'est le pays de la gastronomie. On parle de gastronomie, on parle de cuisine, y compris quand on est à table, on parle d'un autre plat quand on est en train d'en déguster un. Mais c'est vrai qu'il se passe quelque chose depuis quelques années, et singulièrement depuis 1 ou 2 ans, c'est-à-dire depuis la crise sanitaire où le bien manger a envahi un petit peu la vie des gens. Ça a commencé lorsqu'ils se sont retrouvés à la maison à devoir cuisiner. Et puis il y a depuis quelques années une émission de télé, on y reviendra sans doute, qui s'appelle Top Chef sur M6, et qui symbolise un petit peu cette montée en puissance de la gastronomie et même... de la figure elle-même du cuisinier.
Aujourd'hui, les restaurateurs subissent la crise sanitaire et ils ne sont pas les seuls. Toute la chaîne est impactée et notamment nos agriculteurs qui auraient dû être à la fête cette semaine grâce au salon qui leur est dédié. Et comme il est annulé, célébrons différemment l'agriculture française en soutenant nos agriculteurs. Nous avons besoin d'eux.
Il y a une personnalité qui émerge depuis quelques années aux côtés du jeune vieux briscard qui est Cyril Lignac. C'est Philippe Etchebest, devenu aussi le porte-parole, le porte-voix des restaurateurs en temps de crise et ici des agriculteurs. C'est un peu le Stéphane Plaza de la cuisine.
Oui, avec peut-être même une surface encore plus importante puisque la cuisine elle-même est un sujet imbattable en termes de popularité. Etchebest, c'est un caractère, comme on dirait au théâtre. C'est un personnage. C'est pas le plus grand cuisinier, loin s'en faut. mais il a une gouaille, il a aussi un talent fou dans les émissions de télé, si vous les avez regardées, pour coacher, par exemple, des restaurateurs en faillite ou en perdition. En tant que porte-parole, je dirais qu'il aimerait être le porte-parole de la profession, mais qu'il est quand même un petit peu trop grande gueule pour être crédible auprès des pouvoirs publics. Donc je pense que pour représenter le métier, ça ne sera pas lui.
Laurent, comment est-ce que vous expliquez que ces chefs soient devenus si médiatiques, si populaires ?
Écoutez, c'est le sujet peut-être le plus œcuménique, la cuisine, celui qui est le point commun entre tous les citoyens dans une période où la société est particulièrement fragmentée. C'est un sujet sur lequel on est assez d'accord entre Français, c'est le bien manger. Et puis, il y a une espèce de passion à la fois pour le résultat, mais aussi pour ce qui se cache derrière. Et le cuisinier ou la cuisinière, puisque heureusement, quelques figures féminines qui apparaissent petit à petit, il est extrêmement empathique. C'est lui qui nous régale, mais c'est aussi celui qui connaît la nature. C'est celui qui connaît toute la filière de l'alimentation, finalement. C'est lui qui fait le lien, peut-être un peu, entre nous et l'agriculture, entre nous et la terre. Donc, voilà, on l'aime, le cuisinier.
Qui se souvient de cette publicité de 2015 pour une marque de pâtes, des petits bonhommes verts fans d'une certaine Germaine finissent par apercevoir le chef Thierry Marx à la place de leur cuisinière favorite. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans les pâtes. Laurent, forcément, la publicité, les marques ne pouvaient pas passer à côté.
Oui, c'est-à-dire que dès qu'on a une personnalité ou des personnalités qui deviennent influentes, comme on dit aujourd'hui, en anglais, on dirait bankable, comme les acteurs qui, sur leur nom, font venir les gens dans les salles de cinéma. Dès qu'on voit apparaître des personnalités avec un fort potentiel d'empathie et capable d'entraîner derrière elles des valeurs, eh bien, les marques sont intéressées, c'est normal. Et là, dans l'enquête qu'on publie dans les Échos Week-end, on a fait parler plusieurs de ces représentants des marques comme Nespresso, comme Carrefour. Et Carrefour, par exemple, a eu la bonne idée, il y a maintenant 6 ans, de faire appel à un jeune cuisinier qui était lui aussi sorti de l'émission Top Chef, Jean Humbert, avec qui ils ont un contrat de très long terme. Un contrat, d'ailleurs, dont je suis aperçu qu'il était très simple, très souple. C'est pas, on n'en est pas avec les bataillons d'avocats qui décident de chaque détail, etc. C'est une entente entre deux et il promeut des choses qui ne le gênent pas, lui, puisque ce sont des petits producteurs et il va sur le terrain avec son smartphone. C'est lui qui produit, c'est lui qui réalise. Il n'y a rien, c'est aucun artifice. Et il va à la rencontre de petits producteurs qu'on peut retrouver évidemment dans les magasins Carrefour. Carrefour s'y retrouve puisqu'entre temps, ce jeune chef est devenu un peu la star de cette rentrée 2021 puisqu'il a pris les cuisines du Plaza Athénée en lieu et place du chef le plus étoilé du monde, Alain Ducasse.
Ok, bonjour à vous tous. On est en live aujourd'hui. Je suis en Normandie à Gouville-sur-Mer et je vais aller en rencontrer, qui sont juste derrière moi là, David et Caroline. C'est parti.
Jean Humbert en immersion dans un champ de carottes, une rencontre de plus de 20 minutes avec Caroline et David sur le Facebook de Carrefour, un partenariat au long cours. Comment est-ce qu'ils se sont trouvés tous les deux ?
J'ai pas réussi à reconstituer la rencontre puisque la direction marketing de Carrefour n'était pas la même à l'époque. Mais ils ont dû chercher un jeune qui incarnait des valeurs à la fois de proximité, de jeunesse et puis de famille. Puisque Jean Humbert, il a monté un restaurant qui s'appelle Mamie, qu'il a d'ailleurs tout récemment fermé lorsqu'il a été nommé au Plaza Athénée. Mais Mamie, c'est sa grand-mère, c'est les recettes de sa grand-mère. Donc il coche un peu toutes les cases. Il est beau gosse, il cuisine plutôt bien pour un jeune homme, même s'il n'est pas étoilé. Et puis, il a un petit avantage, mais que Carrefour ne connaissait pas à ce moment-là, c'est qu'il est peu à peu devenu l'ami des stars du monde entier. Donc, il fréquente Pharrell Williams, Jay-Z, voilà, toutes les figures populaires mondiales. Et pour le Plaza Athénée, par exemple, c'est un sacré recrutement, puisqu'ils espèrent que toute cette notoriété, qui se mesure aussi par son nombre d'abonnés Instagram et par la structure de ses abonnés Instagram, très mondialisée, eh bien, ça va faire venir des people dans le palace parisien.
On voit hein, cette jeune génération qui monte, mais le déclencheur, hein, celui qui a vraiment marié les marques et les cuisiniers, ça a été Joël Robuchon.
Oui, Joël Robuchon a été approché par une PME régionale qui s'appelait Fleury Michon et qui voulait un chef doué et un chef de la région. Robuchon, à l'époque, n'avait qu'une étoile. À sa disparition, il en avait 30 et c'était le chef le plus étoilé de tous les temps. Et il restera peut-être d'ailleurs comme tel. Mais à l'époque, c'était un chef de la région et ils ont fait appel à lui pour essayer de s'améliorer. C'était pas tant une notion d'ambassadeur, d'image, du consulting vraiment pointu. Et ils ont fait ensemble, pendant des décennies, un travail extraordinaire. Robuchon a fait embaucher chez Fleury Michon un de ses bras droits de son restaurant parisien, qui est devenu directeur de la R&D chez Fleury Michon. Et comme disait lui-même Robuchon, l'idée c'était de vider l'armoire à pharmacie de l'usine pour utiliser le moins possible d'additifs, de conservateurs et de trouver des techniques pour cuisiner, même à grande échelle, de façon la plus naturelle et la plus goûteuse possible. Un jour, il est rentré dans un atelier et tout le monde dit « Ah, ça sent très bon, là, c'est ce qui est en train de se préparer. » Il a dit « Ben, c'est un problème, ça ne doit pas sentir, ça doit rester à l'intérieur, les parfums. »
Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire mon cadeau de fin d'année. Je vais vous révéler le secret de ma purée de pommes de terre.
Il avait l'air un peu simple quand on le voyait dans les émissions de télé, Joël Robuchon, mais c'était quelqu'un qui était assez visionnaire. Et pour Fleury Michon, comme pour d'autres marques, d'ailleurs comme pour la marque Reflet de France, ça a été très 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 important. On me racontait, son ancien associé qui s'appelle Guy Job, qui était un homme de télévision, me racontait qu'il il lâchait tout quand il avait un rendez-vous chez Promodès à l'époque, donc qui avait créé la marque Reflet de France. Il lâchait tout pour aller déguster des dizaines et des dizaines de produits de petits producteurs et ensuite faire une sélection pour savoir qui mériterait le label Reflet de France.
Certains ont peut-être découvert la cuisine avec le chef suédois du Muppet Show, ça date un peu. Laurent, ce phénomène, est-ce qu'il est durable? Est-ce qu'ils vont s'installer dans le petit écran pour s'adresser aux consommateurs?
Il me semble qu'on est au début de ce phénomène et que l'émergence des chefs dans le paysage de l'influence, de la notoriété, c'est pour longtemps. En revanche, il est possible que ces chefs ne s'installent pas pour chacun d'entre eux sur la durée. C'est-à-dire qu'il y a des promotions Top Chef chaque année et avec chaque année, des nouveaux visages qui séduisent le public, qui du coup récoltent des centaines de milliers d'abonnés sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux. Ils arrivent, ils ouvrent des restaurants éphémères, ils sont célébrissimes pendant un certain temps et puis la promotion d'après, on a de nouveaux visages. Ça, c'est nouveau. C'est un mix entre la grande tradition de la cuisine et puis le style de la télé.
Ouais, dans une précédente émission de La Story, où on parlait de Bernard Loiseau, il disait « Le plus dur, c'est de durer, c'est pas de monter ». On le verra là sans doute aussi. Certains chefs deviennent des influenceurs. Ça a des avantages, hein, sonnant et trébuchant, comme on dit. Mais Laurent, c'est pas sans risque.
Si, alors, moi je comprends que ces chefs qui gagnent souvent beaucoup moins d'argent qu'on imagine, qui sont pas très riches, surtout quand ils sont propriétaires de leur restaurant. Il faut bien faire la différence. On dit toujours chef comme si c'était une CSP. Il y a le chef salarié, qui peut être salarié d'un grand groupe international d'hôtellerie ou de restauration, et il y a le chef propriétaire. Le chef propriétaire, souvent, plus il est étoilé, moins il est riche. Parce que c'est extraordinairement coûteux d'avoir un restaurant à 3 étoiles. On s'en rend pas compte, c'est contre-intuitif, puisque le prix du menu est très élevé. Mais les coûts qui sont attachés à ce prix du menu très élevé sont énormes. Donc, pour ces chefs-là qui sont célèbres, mais pas très riches, c'est tentant et c'est assez naturel de valoriser leur notoriété, leur crédibilité par des partenariats. Mais il faut qu'ils fassent très attention parce qu'on peut s'abîmer. Et heureusement, certains professionnels, qu'on appelle maintenant des agents de chef, sont là pour les conseiller et pour leur éviter de prendre toutes les propositions qui se présentent. Et il y en a énormément pour associer leur image à des produits qui ne sont pas de leur niveau. Donc là, il faut qu'ils fassent attention à soigner leur image qui est leur joyau, leur fonds de commerce, en faisant pas n'importe quoi. Et on a vu des grands, grands chefs défendre l'image de pâtes alimentaires de bas de gamme. Ça, c'est des trucs à pas faire.
Il y a les anciens, les Etchebest, les Thierry Marx, les Fréchon, et puis il y a les petits nouveaux, sortis récemment de la cuisine de Top Chef, vous en parlez. Il y a une expression qui vient du cinéma, c'est bankable, les acteurs qui font vendre. Quels sont les chefs qui font vendre, Laurent?
Alors le champion aujourd'hui, c'est Cyril Lignac. Il arrive en tête de notre classement exclusif, hein, des chefs les plus bankable, qu'on a fait avec le cabinet Advent, qui a fait un travail de méthodologie considérable pour établir ce classement. Cyril Lignac arrive en tête, il est extrêmement fédérateur, tout le monde l'aime. C'est un très bon chef et un très bon chef pâtissier. Il a une capacité à entraîner, à faire réagir lorsqu'il prend une position. Enfin, il a une capacité donc à entraîner l'opinion, qui est très, très, très attractif pour les marques. Et il est très organisé. Il a une gestion et une organisation de son business qui est extrêmement efficiente.
Alors, Paul Bocuse arrive en 2, Joël Robuchon en 3. Je vous invite à aller voir sur le site Les Échos Weekend le classement complet.
C'est d'ailleurs étonnant. On a deux personnalités qui sont décédés depuis 3 ans et qui sont encore en haut du classement, c'est-à-dire que les Français ne savent peut-être pas qu'ils sont morts ou alors considèrent que ce sont des marques éternelles. C'est assez extraordinaire.
Je voulais en venir à une chose, c'est que ça manque de femmes et de jeunes, ce classement.
Oui, il y a une femme dans notre top 10 de l'influence, c'est Hélène Darroze. C'est pas un hasard, puisqu'elle est jurée de l'émission Top Chef, on y revient toujours. D'autres chefs sont extrêmement importantes, d'ailleurs pas aux yeux de tous les Français, mais aux yeux du milieu de la gastronomie. Anne-Sophie Pic est la femme la plus étoilée du monde, et d'ailleurs c'est une femme absolument extraordinaire et une chef absolument extraordinaire. Mais c'est aussi peut-être son choix de ne pas être tout le temps très exposé médiatiquement et de travailler sur sa cuisine, de travailler sur ses producteurs, de travailler sur les boissons. Elle fait un travail en ce moment absolument dingue sur les cocktails, etc. Et elle a un groupe, le groupe Pic, qui est prospère. Elle a un mari qui s'en occupe et qui est un grand chef d'entreprise. Donc, elle a peut-être pas, elle, le choix de devenir l'une des plus powerful women de la gastronomie mondiale.
Laurent Guesse parlait il y a quelques instants des agents de chef. Ça m'a intrigué. Il m'a donné le contact d'Hélène Luzin, créatrice de l'agence Marque et Chef. Elle travaille avec des étoilés comme Mathieu Vianney à Lyon, Arnaud Lallemand à Reims, le génial Kei Kobayashi à Paris et tout récemment, Glenn Vieille, nouveau juré de Top Chef. Bonjour Hélène Luzin.
Bonjour, merci de m'avoir invité dans la story.
Vous êtes agent de chef ? C'est comme être agent sportif ?
Alors, je dirais d'abord que nous ne sommes pas sur les mêmes nombres de zéros. Les sportifs sont extrêmement bankable aujourd'hui pour les marques. Les chefs le deviennent de plus en plus, notamment grâce aux émissions de télé comme Top Chef. Ils acquièrent une notoriété importante et les marques aiment bien s'adjoindre de leur service.
Vous parliez des marques qui s'intéressent à ces nouveaux chefs, notamment à ceux qu'on voit à la télé, mais aussi aux autres plus anciens. Pourquoi est-ce que les marques souhaitent s'associer finalement à ces cuisiniers ?
Alors je pense qu'il y a deux raisons principales. La première, c'est pour des raisons de notoriété. Par exemple, si on a une nouvelle marque qui arrive sur le marché alimentaire, on a envie de se faire connaître. Je pense notamment par exemple à des applications. Et ils se disent, si je m'associe avec des chefs qui ont beaucoup de followers, ils vont faire des stories et on va pouvoir faire des choses ensemble. Et du coup, ça crée le buzz et tout le monde va parler de moi. Donc, la première des raisons, c'est la notoriété. La deuxième, qui est, je dirais, la raison historique et la plus ancienne, c'est pour s'adjoindre les conseils en fait, de chefs. Par exemple, quand Joël Robuchon a travaillé avec Fleury Michon, au début, c'est vraiment une association pour améliorer le produit. Comment se débarrasser des additifs ? Comment remplacer certains additifs par des produits naturels ? Comment on va faire en fait pour avoir un jambon le meilleur possible pour tous les Français ?
Vous parliez de zéro derrière un 2 ou un 3 hein, sur le chèque. J'imagine qu'en fonction de ce qu'on souhaite, ce n'est pas les mêmes tarifs.
Tout à fait.
Ça peut aller vraiment de très haut à très bas ?
Je pense qu'on peut commencer à des petits deals à, aujourd'hui, si je peux donner les chiffres, à 5 000 €. Donc, c'est vraiment très raisonnable. Je dirais par exemple pour une publication Instagram ou une story. Et on peut aller jusqu'à 150, 200, 300 000 euros. Même peut-être un peu plus. Moi, en tous les cas, dans ma carrière, mon plus gros chiffre, c'était 300 000. Donc, je ne donnerai pas celui des autres puisque je ne le connais pas.
Pourquoi est-ce que les chefs veulent s'associer à des marques ?
Bah, y a plusieurs raisons. D'abord, les chefs adorent partager. Donc, ils adorent partager leur savoir. Donc, dans le cadre de la deuxième hypothèse que je vous ai donnée tout à l'heure, eux aiment bien améliorer un produit. J'ai eu l'occasion de travailler notamment sur Charal, qui est de la viande sous différentes formes. Les chefs vont se concentrer à vraiment améliorer le produit. Et je pense que c'est pour se dire, voilà, tout le monde va pouvoir manger mieux. Et on est un petit peu dans un cercle vertueux. Si ces gens qui sont des experts des produits s'associent à des grosses machines comme Charal, c'est pour justement que tout le monde puisse manger mieux.
La cuisine, c'est une affaire de mode. Donc, il faut se méfier à ce que la mode ne l'emporte pas sur ce qui est le fond même de la cuisine, c'est-à-dire l'utilisation de choses naturelles que le créateur nous a données.
Michel Guérard, qu'on entend dans un reportage de France 3, s'était associé en 1976 à Findus. Ça avait fait pas mal de bruit dans le Landerneau. Aujourd'hui, c'est presque devenu naturel. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi est-ce que c'est mieux accepté aujourd'hui?
Alors, je pense que c'est lié aussi à la notoriété des chefs, mais je pense que ça a été déjà fait, donc les autres marques n'hésitent pas à le faire. Effectivement, Michel Guérard était précurseur avec Findus, ou Joël Robuchon avec les jambons Fleury Michon. Après, il faut toujours faire attention avec quelle marque on s'associe. Hein. Donc nous, le rôle d'agent, c'est pas juste d'être là pour close the deal, comme on dit en anglais, et puis que le chef puisse prendre le plus gros chèque possible. Pas du tout. Nous, on est là aussi pour conseiller le chef sur la marque. Est-ce que ses valeurs à lui correspondent aux valeurs de la marque? Est-ce qu'on est sur un mariage, je dirais, logique? Et on doit aussi faire attention à ça. Après, il y a des chefs qui ont envie de le faire et des chefs qui n'ont pas envie de le faire. Je peux vous dire que moi, parfois, j'ai des cachets importants et des chefs n'ont pas envie de le faire parce qu'ils ne croient pas au produit. Il y a quand même un besoin d'aimer un peu ce qu'on fait. Enfin, je pense que c'est des gens passionnés, ils ne peuvent pas faire un truc pour faire semblant. Ou alors, ils ne sont pas dans mon agence.
Mocklet.
I'm sorry?
Mocklet. It's a completely synthetic chocolate substitute.
Ooh.
Well, go ahead, try a piece. Oh. Yeah, we think that mocklet is even better than chocolate.
All right.
Ça me fait penser à un épisode de Friends avec Monica qui devait tester une marque de chocolat et finalement ils ont arrêté parce que c'était vraiment un chocolat très très mauvais, y compris mauvais pour la santé. Ça veut dire que là aussi ils sont attentifs à ne pas abîmer leur image?
Ah, tout à fait. En tous les cas, moi je suis attentive à ce qu'ils n'abîment pas leur image et on a souvent des grandes discussions. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et les partenariats, ça prend du temps à mettre en place. Et ce que je dis, c'est qu'un partenariat gagné, c'est un partenariat qui se reproduit. Donc, quand on arrive à signer avec une marque pour une année, si on peut faire encore 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est merveilleux. Ça veut dire que tout le monde a trouvé son compte, tout le monde est heureux de travailler ensemble. Et quand on voit Joël Robuchon, il est resté, je pense, 20 ans avec Fleury Michon. Donc, des beaux mariages durent normalement.
Vous le disiez, ça fait longtemps que les marques associent leur nom à des chefs réputés. Mais est-ce que vous constatez, depuis quelques temps, vraiment une montée en puissance?
Oui, je trouve qu'il y a beaucoup plus de marques qui font ça pour la notoriété. Ce qu'on n'avait pas forcément avant, puisque les chefs n'étaient pas vraiment des médias, entre guillemets. Aujourd'hui, un chef qui a 1 million de followers sur Instagram, il devient un canal à lui tout seul. Donc effectivement, une marque a envie de s'associer avec lui. Je pense notamment à Zara Home et Cédric Grolet. Je crois que Cédric Grolet doit avoir 2 millions de followers. Zara Home lance des ustensiles de cuisine. Je trouve que le partenariat, c'est excellent. Je trouve que c'est un très, très beau mariage.
C'est quoi justement un bon chef pour une marque?
C'est le chef qui va comprendre la marque et qui va vraiment avoir envie de le faire. Et ça, c'est ce que je dis toujours aux marques. Vous pouvez me demander tel chef ou tel chef ou tel chef. Si le chef n'a pas envie de le faire, il prendra juste un chèque et il ne le fera pas sérieusement. Ce qu'il faut, c'est qu'il y a vraiment un vrai investissement des deux côtés.
Ils deviennent des influenceurs. On pense notamment aux jeunes qui ont peut-être plus de facilité avec ces nouvelles techniques de marketing.
Ben là, je pense que le mot influenceur rejoint bien la théorie dont je vous parlais de notoriété. En fait, quand une marque s'associe à un chef, elle va demander à un chef d'avoir le plus de followers possible pour justement utiliser sa notoriété pour gagner des nouveaux clients. Donc oui, c'est un côté très influenceur. Si vous voulez, moi, je vais vous dire un truc très simple. Il y a 5 ans, quand je faisais des contrats avec des marques, il n'y avait pas de volet réseaux sociaux. Aujourd'hui, il n'y a pas un contrat sans volet réseaux sociaux.
Merci Hélène Luzin, agent de chef et créatrice de l'agence Marque et Chef. Elle écrit aussi des livres de cuisine, dont 50 plats de grands chefs qu'il faut avoir goûté une fois dans sa vie. J'ai testé pour vous le jardin de légumes croquants de Kei Kobayashi. Ça m'avait mis les papilles en fait. Merci aussi à Laurent Guèze, critique gastronomique pour les Échos Week-ends. Si vous aimez la bonne chère et si vous vous intéressez à ce secteur d'activité, abonnez-vous à sa newsletter hebdomadaire Le sens de la food. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.